Chapitre 29. Tout se passa comme dans un brouillard. Cal vit moins la scène qu'il ne l'entendit. Le craquement sec de branches cassées, des agents qui surgissaient des fourrés. Des aboiements, ceux de Molly la bâtarde, grave et furieux. Puis le cri d'effroi d'un homme et l'ordre sans appel de Deb. « Arrêtez-vous, police !» Encore des aboiements, encore des éclats de voix, et Cal lui-même s'arrêta en dérapage contrôlé dans la clairière, fusil devant lui, son sang cognant dans ses oreilles. Embuscade, coup de feu, cri de terreur. Il s'était préparé à tout, il s'attendait à tout. L'adrénaline coulait à flot dans ses veines, et autre chose encore. Une rage, primitive et sauvage parce que ce gamin avait tiré sur ses collègues, parce que lui-même avait foiré et emmené son équipe dans la ligne de mire d'un tueur. Noni, une grand-mère, avait poussé un cri en s'effondrant. Un cri sans fin. Et ensuite Antonio. Et lui-même en avait été réduit à se jeter à terre pour laisser passer l'orage. Il tomba sur le râble du jeune homme sans bien savoir ce qu'il faisait et lui enfonça le canon du fusil dans l'arrière du crâne. « Lâche ton arme ! Lâche ton arme ! Lâche ton arme !» Puis il reprit conscience de la situation, d'un seul coup. Molly lui apparut campée sur ses pattes raides de l'autre côté de l'homme roulé en boule, puis Deb derrière sa chienne, et Darren à trois pas sur la droite de Cal. Aucun d'eux ne regardait la silhouette apeurée. Tous dévisageaient Cal avec de grands yeux. Une supplique monta de l'homme pelotonné à ses pieds. « Tirez pas, monsieur, je vous jure, tirez pas !» Cal rassembla ses esprits et se rendit compte qu'il tremblait comme une feuille. Un homme au bord de la crise de nerfs. Très lentement, très précautionneusement, il s'écarta. Le choc, se dit-il. Un deuil et une colère à retardement après les événements de la matinée. Peut-être même le stress post-traumatique si ce syndrome pouvait apparaître dans les heures qui suivent un incident. Pourquoi pas? Il était juste fabricant de fromage et pisteur. Jamais au cours de leur formation on ne leur apprenait à gérer le fait de devenir soi-même une cible. Ni ce qu'on ressentait en voyant ses coéquipiers tomber comme des mouches. Fabricant de fromage, pisteur de fugitifs. Et maintenant, pensa-t-il, autre chose encore. Deb prit la direction des opérations, sa chienne sa prise.
« Les mains en l'air !»
dit-elle sur un ton qui n'admettait pas la réplique. L'homme était recroquevillé sur ses genoux. Un sac de randonnée camouflage cachait presque tout son dos. Il avait les bras repliés sur la tête dans un geste de protection. Probablement plus en réaction aux aboiements forcenés de Molly qu'à leur propre assaut. Il leva aussitôt les bras au ciel.
« Redressez-vous, très lentement. Restez à genoux. Redressez seulement le buste. »
Docilement, l'homme obéit. Le gamin, plutôt. Même pas 20 ans, des cheveux blonds sales, un t-shirt vert foncé collé par la sueur. Ce n'était pas Telly Renache. Juste un randonneur terrorisé qui, à vue de nez, c'était le cas de le dire, venait de se pisser dessus.
« Putain de merde !» dit-il tout bas. « C'était quoi ? Je vous jure. La vache, je vous jure. »«
Votre nom ?»
aboya Darren.
« Ed. Ed Young. »
« Qu'est-ce que vous faites ici, Ed ?»«
De la randonnée, quoi. Enfin, juste pour échapper à la chaleur. Je pensais camper cette nuit, me baigner dans la rivière, me rafraîchir. »
« Tout seul ?»«
Ouais, bien sûr. »
Son regard se déroba. À point nommé, Molly se mit à grogner.
« J'ai pris mon portable, » ajouta l'autre à la hâte. « J'aurais peut-être appelé des potes pour qu'ils me rejoignent, mais là, pas moyen, parce que regardez, ici, c'est toujours premier arrivé, premier servi, et quelqu'un était là avant moi. Pas de bol, hein ?»
Pour la première fois, Cal embrassa la clairière du regard. Une sorte de campement sauvage. Les restes calcinés d'un foyer au milieu d'un rond de pierre, non loin de leur cible agenouillée. Plus loin, sur la gauche, une plateforme bricolée avec de vieilles palettes en bois sur laquelle se trouvait actuellement un petit tas de matériel. Les palettes étaient là pour éviter aux campeurs et à leurs affaires de se retrouver dans la boue en cas d'intempérie. Astuce assez classique sur la côte du Pacifique Nord, où il pleut plus souvent qu'à son tour. D'un signe de tête, Darren invita Cal à aller examiner les objets. Celui-ci se dirigea donc vers la plateforme en ayant soin de chercher au sol tout indice ou trace de pas qu'il aurait besoin de signaler pour la suite de l'enquête. Mais l'épais paillis d'aiguilles de pin conservait ses secrets. Il faudrait être plus heureux avec le matériel. « Tapis de sol ?» annonça-t-il en commençant à trier la pile de la pointe du fusil. « Tente, sac à dos. » Il s'agenouilla. La tente était encore pliée et rangée dans sa housse de transport en nylon vert. Il distingua une inscription noire sur le bord. « F. Duval », lut-il avant de lancer un regard vers Darren.
« Franck Duval, c'est à lui. On a trouvé le camp de base. »
Darren se retourna vers le jeune.
« Qui avez-vous vu ? »
demanda-t-il sévèrement.
« Hein ? Qui ? Mais j'ai vu personne, moi. Je viens juste d'arriver, j'ai vu le matos, et après, c'est comme si la forêt avait explosé. Ce chien... »
Il jeta un regard vers Molly, toujours au garde-à-vous, et frissonna.
« Écoutez, sérieux, je sais pas ce que c'est l'embrouille, mais c'est pas moi. »
Même Cal en déduisit que le gamin n'avait pas la conscience tranquille. Darren était apparemment du même avis. Il releva son fusil sur sa poitrine et se donna une contenance intimidante.
« Quel âge avez-vous, Ed ?»«
19 ans. »«
Vous êtes du coin ? Vous avez grandi ici ?»«
Ouais. »«
Vous allez au lycée de Bakersville ?»«
Ouais. »«
Vous connaissez un élève ? Telly Renache ?»
Froncement de sourcils.
« Non. »«
Vraiment ? Vous n'avez jamais entendu son nom ?»«
Non. En même temps, le bahut est grand. »
« Même pas ce matin, aux informations ?»«
Il s'est passé quoi ce matin ?»
Le garçon avait l'air tellement perdu que pour une fois, Cal le crut.
« Vous avez marché combien de temps, Ed ?»
Encore une question de Darren.
« Je suis parti à l'aube, à 6 heures pour éviter les grosses chaleurs, mais sérieux, avec la canicule, même à cette heure-là, il faisait trop chaud. »«
Quel sentier ?» intervint Cal.
« Lumatia. » J'ai laissé ma voiture à quelques kilomètres au nord et je suis monté à pied.
Donc il n'avait pas pris le sentier emprunté par l'équipe de recherche qui avait donc dû suivre la trace de Telly Renache.
Vous avez démarré à 6 heures du matin et vous arrivez seulement ?
Continua Cal.
Vous faites le concours du randonneur le plus lent du monde ou quoi ?
L'autre rougit.
J'ai pris mon temps. Profité du grand air, vous voyez.
Il voulut écarter les bras pour désigner les arbres majestueux et le paysage grandiose autour de lui. Mais Molly gronda. Aussitôt, les bras remontèrent à la verticale. Deb, derrière Molly, se pencha vers lui pour le renifler.
« Je dirais que vous n'avez pas respiré que du grand air, » observa-t-elle avec ironie.
« Et sérieux, j'ai une ordonnance, »
répondit l'autre aussi sec.
« Génial, » pensa Cal.
Il cherchait à coincer un tueur et voilà qu'il se retrouvait avec un fumeur de joint à moitié défoncé.
« Vous avez croisé d'autres randonneurs ?»
demanda-t-il. « Sur les sentiers ?»«
Ouais, c'est clair, on est en août, ça grouille de monde. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de monter ici, un coin pas indiqué sur les cartes, vous voyez. Faut être d'ici. »«
Est-ce que vous auriez croisé un homme seul, à peu près de votre âge ?»«
Je sais pas, moi. »«
Réfléchissez mieux, »
dit Darren, esquissant un petit pas menaçant vers lui.
« Non, sûr que non. Des groupes, oui. » J'en ai vu 3 ou 4, un petit couple, un vieux avec un chien. Mais un gars tout seul comme moi, non.
Un quad ? Suggéra Cal. Est-ce que vous en auriez vu ou entendu un dans les parages ?
Ed les regarda avec incompréhension.
Il n'y a pas de quad par ici, les sentiers sont pas assez larges.
Cal confirma. Lumatia était réservée aux marcheurs. Le suivre avec un véhicule aurait été difficile et, étant donné le flot soutenu de randonneurs, voyant. Quand il voudrait monter au campement, Telly serait donc forcé de le laisser quelque part, ou d'arriver par une autre voie. Lui-même adepte de la marche, Cal ne connaissait pas bien le réseau des sentiers accessibles aux véhicules récréatifs. Le plus probable était que Telly était monté ici à la première heure, par le même chemin moins fréquenté qu'eux. Dans ce cas, il n'avait à aucun moment croisé Lumatia. Une fois son matériel déposé, il avait dû redescendre par le même itinéraire pour récupérer sa voiture. Arrêt suivant, la station EZ-Gaz pour un nouveau carnage. Une question s'imposait. Si Telly était venu ici déposer ses affaires de camping en prévision de l'avenir, y avait-il aussi caché les armes à feu manquantes ? Cal regarda Darren et vit que l'officier du SWAT en était arrivé à la même conclusion. Celui-ci poussa un sifflement qui fit descendre Mitch de son perchoir. Et tandis que Molly la bâtarde tenait leur randonneur tout tremblant à l'œil, ils ratissèrent pour de bon le secteur. Une mallette de transport pour carabine était un objet franchement encombrant. Dans la mesure où Telly avait été filmé avec un pistolet puis avait tiré sur l'équipe de Cal à la carabine, Deux armes de poing et deux armes longues restaient à localiser. Cal imaginait que pour plus de facilité, Telly avait pu les fourrer dans un seul grand sac polochon et utiliser la place restante pour des boîtes de munitions. Une lourde charge, surtout qu'il portait de surcroît un sac à dos à armature métallique, une tente et un sac de couchage. À son arrivée, Telly avait dû être soulagée de se délester de son fardeau. Sac à dos, tente et sac de couchage se trouvaient sur la palette en bois. Mais quid d'un sac polochon? Ou d'une mallette pour armes longues, quelque chose? Darren et Deb se chargèrent du campement et Mitch se concentra sur les arbres, au cas où Telly aurait eu l'idée de planquer ses armes en hauteur. Cal en revint à sa spécialité, chercher des traces. Fougères écrasées, branches cassées, éraflures fraîches sur des troncs moussus. Tout ce qui pourrait indiquer dans quelle direction Telly avait quitté la clairière, en quête d'une cache plus discrète. Mais une fois de plus, l'épais tapis d'aiguilles lui rendit la tâche presque impossible. Ils élargirent progressivement le périmètre des recherches en procédant par cercles concentriques. Il faisait chaud, la besogne était fastidieuse, et ne donna strictement aucun résultat. Ils retournèrent à leur fumeur de shit et vidèrent son sac à dos au cas où il aurait trouvé les armes avant eux. Toujours rien. Deux carabines, deux pistolets, des boîtes de munitions en pagaille. Tout cela ne pouvait pas s'être purement et simplement volatilisé. Et pourtant. Ils avaient trouvé le camp de base de Telly Renache, mais pas la moindre trace de son arsenal. Ordre du PC. Remettre le campement dans l'état où ils l'avaient trouvé, poser les caméras et se replier. En l'absence de témoignages permettant de localiser Telly ou même un homme seul en quad, ils n'avaient aucun moyen de savoir s'il se trouvait dans les parages. Or, le shérif Atkins était catégorique. La prochaine fois qu'il rencontrerait le fugitif armé, elle tenait à ce que cela se passe selon leurs conditions. Par exemple, lorsqu'il aurait regagné son campement et que, se croyant enfin en sécurité, il serait dans les bras de Morphée. Mais Cal ne l'entendait pas de cette oreille. Maintenant qu'ils avaient établi ce qui ne se trouvait pas dans le campement, les armes, il voulait qu'on lui laisse une chance de découvrir les indices qui s'y trouvaient. Or, il reconnaissait une qualité au shérif. Au moins, elle savait écouter. Après une petite guerre de tranchées, ils s'entendirent sur un compromis. Deb et sa chienne allaient redescendre le randonneur récalcitrant au PC, où le shérif et ses enquêteurs le cuisineraient plus en détail. Mitch remonterait dans son arbre. Depuis ce poste d'observation et à l'aide de ses jumelles, il pourrait détecter Telly bien avant que l'autre ne les repère si jamais il s'approchait. Et pendant que Darren montrait également la garde, Cal fouillerait le campement aussi vite et bien que possible.
« Après, vous dégagez !»
insista Shelley. « Ça marche. Mais soit dit entre nous, rien n'indique que Telly soit dans les environs. Or, on va avoir besoin d'autant d'informations que possible sur ce garçon. »«
Prenez des photos. Avant, pendant et après la fouille. Et remettez tout exactement dans l'ordre où vous l'avez trouvé. Il ne faut pas lui faire peur. Lancer une attaque surprise à son retour est notre meilleure chance d'en finir. »«
J'ai des capacités d'observation exceptionnelles, vous vous souvenez? Je crois que c'est dans mes cordes. »
Vraiment? Dans ce cas, qui se trouve juste derrière vous?
Hein? Cal se retourna brusquement et découvrit personne. À l'autre bout de la radio.
Je vous ai eu.
Puis, plus sobrement.
Vite fait, bien fait, ne traînez pas, je suis sérieuse. On a eu assez de dégâts pour aujourd'hui.
Deb et Molly partirent avec Ed qui planait à moitié. Molly, toujours sur la brèche, fixait sa prise avec ses yeux noirs. Elle ne ressemblait plus à une fidèle compagne qui vous souriait, la langue pendante. Plutôt à une prédatrice qui se léchait les babines. Une fois débarrassé du civil, Mitch retourna se percher dans son arbre et Darren se posta accroupi derrière un buisson de fougères, partageant son attention entre le sentier par lequel ils avaient rejoint la clairière et la zone où passait l'Oumatia par lequel Ed était arrivé. Cal se mit au travail, en commençant par le matériel de camping. Même s'il avait frimé devant le shérif, il savait qu'elle avait raison. Il ne pouvait pas se permettre d'effaroucher leur suspect en laissant voir que sa base opérationnelle était découverte. Cal avait envie de croire qu'il était capable de battre un ado au jeu du plus malin, mais il fallait reconnaître que celui-là était futé. Depuis les premiers meurtres, Telly avait fait preuve à chaque étape d'un sens stratégique étonnant. Cal eut donc la sagesse de prendre une photo de la pile de matériel à laquelle il pourrait se référer pour tout remettre en place. Il commença par le sac de couchage, qu'il déroula entièrement pour en inspecter tant l'intérieur que l'extérieur. Il en suivit les coutures, sans bien savoir ce qu'il cherchait. N'importe quel indice susceptible de l'aider à coincer un assassin. Quand il fut prouvé que le sac de couchage ne contenait rien d'autre que du nylon et de la flanelle, Il le roula et le remit à sa place sur la palette. Le sac de randonnée à armature métallique comportait une multitude de poches, sangles et autres lanières. Cal progressa de l'extérieur vers l'intérieur, en commençant par une pochette qui contenait tout l'équipement de base du marcheur. Trousse de premiers secours, carte topographique, etc. Un assortiment familier à Cal qui avait le même dans son sac. Ensuite, il découvrit dans une poche intérieure des barres de céréales, deux clémentines et un sachet de ce qui avait dû être des amandes enrobées de chocolat mais n'était plus qu'un infâme magma. Deux bouteilles d'eau, notoirement insuffisant par ces températures, ce qui donna un peu d'espoir à Cal. Quand Ellie aurait consommé ses bouteilles, ce qui ne saurait tarder, il serait obligé de chercher du ravitaillement. Dans le compartiment principal du sac, Cal fit sa première trouvaille surprenante. Des livres. Telly, en partance pour une équipée meurtrière, avait emporté des livres. Cal voulut les sortir du sac, mais se ravisa et prit d'abord rapidement une photo. Telly le remarquerait-il si Cal ne les replaçait pas dans le bon ordre? Mieux valait être prudent. Premier livre que sortit Cal. Un mince volume pour enfants. Clifford, le gros chien rouge. Emprunté à la bibliothèque municipale de Bakersville. À en croire la dernière page, il aurait dû être rendu depuis 12 jours. Cal en resta pantois. Un adolescent avec un album illustré? Il photographia la couverture, puis la page avec les coordonnées de la bibliothèque. Enchaînons. Plusieurs petits carnets de notes à spirale. Premier prix, le genre qu'on trouve dans n'importe quel magasin de fourniture de bureau. Il en compta 5, prit celui du dessus, l'ouvrit à la première page et fut une nouvelle fois cueilli. Pas de texte, mais une photo, format 11/15. Un gros plan d'un nourrisson enveloppé dans une couverture bleue, dans les bras d'une femme dont on ne voyait que le profil car elle regardait le nouveau-né. Telly avec sa mère. Aucune légende. Juste la photo aux couleurs fanées par le temps, scotchée en plein milieu de la page. Cal était décontenancé d'avoir sous les yeux une image aussi banale. Un bébé, adorable et innocent. Une maman, heureuse et tendre. Quand on pensait que 17 ans plus tard, le poupon était devenu un garçon déterminé à tous les exterminer. Lentement, Cal feuilleta le carnet. Armé de son téléphone portable, il photographiait page après page. Le bébé devint petit garçon, puis fut rejoint par un second bébé dans une couverture rose. Le petit garçon et la petite fille grandirent sans qu'aucune légende ne donne de renseignements sur ces instants Kodak. Et pas de parents à l'horizon. « Noonan !» protesta Darren derrière lui. « Je sais. » Il accéléra le mouvement et alla à la dernière page de l'album. Une seule photo, un homme relativement âgé. Flou, pas une image de très bonne qualité. Peut-être le père indigne ou, à en juger par le cheveu rare et grisonnant, un grand-père. Toujours pas de légende. Juste un homme seul qui, à une époque, avait dû compter pour Telly Renach. Cal reposa l'album, passa aussitôt au carnet suivant. Telly pouvait débarquer d'un instant à l'autre et faire parler la poudre. Pire, il était peut-être terré depuis le début dans une planque qu'il n'avait pas découverte. Et à cette minute même, il calait la crosse de sa carabine au creux de son épaule et, après une profonde respiration, positionnait le réticule sur la nuque de Cal. Les carnets. Encore 4 à examiner. Il choisit celui à la couverture verte et eut enfin la satisfaction d'y trouver ce qu'il cherchait. Du texte. Toutes les lignes, la marge, le haut de la page, même les petits espaces entre les spirales étaient noircis de mots, sans queue ni tête. Des bouts de phrases, des pensées répétitives. Sans doute pas toutes écrites au même moment d'ailleurs. Sur certaines lignes, les lettres étaient plus grandes, brouillonnes, comme de la main d'un enfant de primaire. Alors que les mots surchargés d'encre entassés à l'intérieur de la spirale, il ne pouvait même pas les lire pour la plupart. L'écriture était presque microscopique, très maîtrisée. Un Telly qui aurait grandi et qui, manquant de place à la fin du carnet, serait revenu à la première page pour finir de la remplir compulsivement. Cal prit une photo, se rendant compte que la page était beaucoup trop dense pour qu'un pisteur fébrile la lise alors qu'il risquait peut-être de se faire exploser le crâne. Il accéléra. Un carnet, l'autre, le suivant, photo sur photo pendant que Darren le pressait de se grouiller. Il feuilleta les ultimes pages du dernier carnet. Clic, 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 des indices pour la police, du grain à moudre pour le profileur à la retraite. Et pour finir, il n'éteint plus. Il baissa le téléphone et lut. Il s'attendait à un chapelet de vitupérations ou de récriminations contre la terre entière. Peut-être même une liste de tous les affronts subis par Telly. Mais non. Les dernières pages du dernier carnet faisaient écho au mur de sa chambre. Elle ne contenait ni récit des événements de la journée, ni réflexion métaphysique, mais une litanie de mots. Héros ou zéro, qui suis-je? Protecteur, destructeur, protecteur, destructeur, protecteur. Quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Quel genre d'homme? L'écriture était plus appuyée sur les deux dernières pages. Les lettres très noires, comme si Telly était repassée plusieurs fois sur chaque mot. Pas seulement pour remplir la page, mais pour graver son anxiété dans le papier. Réfléchis, 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 lisait-on. Mais à quoi? Se demandait Cal. Puis, sur la toute dernière page, un seul mot. Un engagement. Héros. Cal secoua la tête. Il rangea tous les objets, reconstitua la nature morte sur la palette, puis posa les caméras à détecteur de mouvement. Après quoi, il héla ses flanqueurs, qui réapparurent à ses côtés, et ils reprirent le sentier. Le scénario idéal? Telly regagnait d'ici peu son camp de base et déclenchait les caméras en déballant son matériel. Il s'assoupissait. Les forces d'intervention donnaient l'assaut et la ville pouvait de nouveau dormir sur ses deux oreilles. Le scénario du pire? Telly ne revenait jamais au campement. Et ce meurtrier de masse qui se prenait pour un héros pouvait être absolument n'importe où.